Voilà, ben bonjour à toutes et à tous. Ben je voulais remercier Jean-Haut qui nous a laissé un peu plus de temps pour ce culte, donc témoignage de ce matin. C'est un culte qui sera tout particulièrement à l'occasion de laisser un petit peu travailler aussi les lycéens. Parce que vous savez que dans l'Église, on a aussi à cœur donc, de faire grandir dans la foi tous les jeunes. Hein. Jean-Haut a prié pour les jeunes ce matin. Et nous, on veut aussi que les collégiens, les lycéens, etc., eh bien aussi grandissent dans la foi. Voilà. Donc là, j'ai mis à leur disposition, ils peuvent venir le chercher. Pour les encourager, j'ai mis un petit peu des paquets de dragibus, vous voyez ? C'est-à-dire que ça les aide à descendre plus facilement. Parce qu'aller chercher le message de ce matin, c'est moins drôle, mais s'il y a des dragibus avec, ça peut aider, non ? D'accord. Voilà. Donc là, il y a 10 messages donc, de ce qui va se dire ce matin avec les témoignages, et puis un questionnaire pour qu'ils puissent aussi essayer de méditer sur le message. Et si on reste, ben, vous pouvez aussi les utiliser. Hein. Voilà. Et ben, on va passer directement au message de ce matin. Donc moi, ce matin, ce qui m'intéressait, c'était de faire un culte d'encouragement. Alors, déjà, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous une heureuse année 2018 et à chacun donc cette belle année dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour débuter cette longue et j'espère belle année, je souhaiterais ce matin vous proposer donc un message d'encouragement. Alors vous allez me dire pourquoi un message d'encouragement dans l'Église ? Eh bien, frères et sœurs, disons-le. Nous passons certainement toutes et tous par des moments de doute, d'épreuve et de découragement. Et nous sommes même peut-être ce matin dans des temps de maladie, pardon, vous voyez, de souffrance ou même d'abandon. Aussi, je vous propose de nous appuyer sur trois promesses bibliques. Voilà, trois promesses dans la Bible qui vont nous rappeler que notre Dieu est bien chaque jour au cœur de nos vies. Alors, j'aimerais introduire cette prédication ce matin en vous partageant le très beau texte d'Ésaïe 12. Alors, Ésaïe 12, versets 16 à 20. Alors voilà, je vais vous le lire, il doit être marqué derrière moi normalement. « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. » Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Et ce matin, moi, j'ai envie de dire, « Oui, pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, Église de Vendeuvre. En effet, il est grand au milieu de toi, le Dieu trois fois saint. » Et je dirais comme Jean-Haut, « Amen, Amen. !» Tu vois, t'as fait des élus, là. Très chers frères et sœurs de l'Église évangélique de Vendeuvre, nous allons ce matin, donc, à travers trois passages du Nouveau Testament, qui seront illustrés par autant de témoignages de vie, eh bien prendre conscience de la présence quotidienne de Dieu, non seulement avec nous, mais encore pour nous et en nous. Alors, c'est vrai que Dieu est avec nous. Et nous allons rappeler le contexte spirituel de cette promesse formulée dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 16 à 20. Et c'est une promesse qui a été formulée par Jésus lui-même. Alors, les disciples viennent d'assister à l'arrestation de Jésus, puis à sa condamnation. Ils l'ont vu agoniser sur la croix, rendre l'âme et enfin être transporté dans le caveau offert par lui, par José d'Arimathie. Et le moral des disciples, il est au plus bas. On dirait aujourd'hui qu'ils ont le moral dans les chaussettes. Jésus, dont le nom signifie en hébreu « sauvé »,« délivré », était, il faut bien dire, leur unique espérance. Or voilà qu'il n'est plus. Il est mort. Pendant 3 ans, Jésus les avait instruits, guidés, protégés. Il était leur maître. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, avait prophétisé sa venue par ces mots. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et avec la mort de Jésus, avec la disparition du Maître, du Fils de Dieu et de Dieu lui-même, eh bien, c'est la promesse d'Ésaïe pour les disciples qui s'envolent. C'est vrai, voilà déjà 3 jours qu'il est dans le sépulcre, qu'il est mort. Oui, il est mort. Enfin, pas exactement. Pas exactement mort. Car il se trouve que des femmes parmi lesquelles se trouve Marie, la mère de Jésus, et Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se sont rendues de bon matin au tombeau et ont trouvé ce tombeau ouvert et vide. Et un ange leur a dit, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez. » Alors, vous imaginez, à cette nouvelle, les disciples sont d'abord surpris, puis perplexes. Et voilà que progressivement, le moral revient. Alors, ils se rendent en Galilée, à la rencontre de Jésus. Ils gravissent la montagne, et là, devant eux, apparaît le Maître. Vous rendez compte ? Apparaît Jésus. Aussitôt, ils s'agenouillent et ils l'adorent. Pourtant, parmi eux, certains sont envahis de doutes. Mais il faut les comprendre. Ils l'ont quand même vu mourir, hein ? Ils ont vu de leurs yeux la pierre se refermer sur l'entrée de la grotte. Alors fusent de leur bouche des propos interrogatifs. Est-ce bien lui ? Est-ce bien Jésus ? Est-ce vraiment le Maître ? On n'en est pas sûr. En réalité, Jésus ne va pas les laisser très longtemps dans le doute. Il leur parle selon son habitude avec autorité. Tout pouvoir, leur dit-il, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il rappelle à ses disciples qu'il est le Fils de Dieu. Il est la parole qui, dès le commencement, était avec Dieu et qui était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et cette vie, Jésus veut la transmettre au monde perdu, à ce monde qui meurt spirituellement. Alors il leur confie une mission, une belle mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et cette mission d'évangélisation du monde, eh bien, va donner un but. Ça va galvaniser l'énergie des disciples qui vont se sentir investis d'une mission divine. Et en nous appelant à évangéliser, eh bien non seulement Dieu nous responsabilise, mais il nous offre l'occasion de prolonger le ministère terrestre de Jésus qui consistait à venir chercher les brebis perdues. 1 Jean 4, verset 14, « Dieu a envoyé le Fils comme sauveur du monde ». Pour sauver le monde. Puis, là vient cette promesse exceptionnelle qui est pour nous ce matin, cette parole encourageante qui les rassure et les exalte, ses disciples. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et par cette parole, Jésus redevient soudainement Emmanuel. Dieu avec nous. Souvenez-vous, lorsque Moïse a demandé à Dieu, dans Exode 3, 14, « Si Israël me demande quel est ton nom, ben, que lui répondrai-je à Israël ?» Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et en disant « Je suis avec vous tous les jours », eh bien, Jésus rappelle que le Dieu omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, qui connaît tout, Hein. Le Dieu Tout-Puissant, eh bien lui, il nous accompagne chaque seconde de notre vie. Et voilà, jusqu'à ce que ce monde se termine, car ce monde, soyez-en sûrs, passera et prendra fin. Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La présence divine de Jésus est merveilleusement décrite dans le beau psaume 139 de David, que je vais demander ce matin donc à Edith de lire en introduction à son message de vie. Voilà. Je peux laisser ça, Edith, ça va ? Ça te dérange pas si je fais ça ? Merci Edith, c'est une très belle question que Edith nous laisse. Dieu est avec nous, mais on a vu aussi que Dieu est pour nous. Hein, nous venons de voir donc que Dieu était avec nous, à présent nous allons découvrir que Dieu aussi est pour nous. Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, hein, on prend ça comme principe, hein, si Dieu il est pour nous, dit l'apôtre Paul, alors qui sera contre nous ? Qui pourra être contre nous si Dieu est avec nous ? La question qu'on doit se poser ce matin, c'est comment Dieu peut-il être avec nous ? Comment Dieu peut-il être pour nous ? Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31, versets 19 et 20, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela, de ton choix, dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. » De ton choix, hein. Dieu nous appelle clairement à choisir, à résolument nous positionner pour lui ou contre lui, mais pour lui. Et le choix qu'il propose, il est binaire. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Matthieu 12, 30, il dit « Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. » Voilà, ça c'est ce que dit Jésus. On est pour ou on est contre. On ne peut pas être situé au milieu. En réalité, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit. Jean 15, 16. Notre responsabilité, c'est d'accepter que Dieu nous ait choisis. Dès lors, frères et sœurs, nous allons nous placer sous la protection de Dieu. Psaume 5, versets 12 et 13. « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » C'est clair. Frères et sœurs, Dieu est pour nous, car nous lui appartenons et parce qu'il nous aime. Nous sommes le troupeau dont il est le berger. Et le beau psaume 23, versets 1 à 4, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Oui, Dieu est pour nous, comme il l'a été jadis pour David, qui allait et réussissait partout où l'envoyait Saül, car Dieu était avec lui. Alors c'est vrai, on le sait, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Même si nous sommes des chrétiens obéissants, soumis à Dieu et aimant notre Père céleste, eh bien, nous sommes et serons toujours aux prises avec trois forces d'opposition. Le mal, personnifié par Satan, qui nous livre un dur combat spirituel. Le monde, dont l'esprit s'oppose à l'esprit de Dieu. Et puis notre propre chair, qui s'oppose à notre volonté de servir Dieu. Mais si Dieu nous bénit, nous encourage, nous guide, nous protège et nous soutient, en nous tirant vers le haut, eh bien, il nous aspire dans un courant positif. Eh bien, ces trois forces d'opposition nous aspirent et nous entraînent, elles, vers le bas. Notre vie spirituelle est donc une vie bénie, entrecoupée d'épreuves. Dieu est pour nous, c'est encourageant, mais nous vivons des épreuves et ça nous décourage. Hein, vous voyez, on est pris dans un système de bénédiction et d'épreuve. Imaginons notre vie spirituelle comme un verre qui serait à moitié rempli. Vous voyez ? Alors, nous pouvons voir tout ce qui ne va pas, hein, et se plaindre de son sort. Ça, c'est voir le verre à moitié vide. Hein, j'ai pas ça, je réussis pas, il se passe trop de choses mal dans ma vie, etc. Et là, on voit vraiment le verre à moitié vide. Mais nous pouvons au contraire voir le verre à moitié plein et retenir toutes les bénédictions de Dieu et son soutien dans l'épreuve. C'est un petit peu ce qu'a dit Edith ce matin. Hein. On peut voir le bon côté des choses. Et quand on voit ça, eh ben, on est encouragé, réconforté, on a envie d'avancer. Alors, frères et sœurs, à qui aussi peut-on comparer Dieu ? À qui peut-on le comparer ? Psaume 89, verset 7, « Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à lui parmi les fils de Dieu ? Il est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ce Dieu redoutable, qui peut s'opposer à lui ? Moi, je vous demande, qui peut s'opposer à lui ? Job 42, verset 2, il répond, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Il n'y a rien qui s'oppose aux pensées de Dieu. Et bien souvent, nous pensons à tort qu'il existe deux forces égales qui s'opposent. Il y aurait une force du bien, hein, qui serait caractérisée par Dieu, et une force du mal qui serait Satan, et puis qui s'opposerait, qui serait à égalité. Bien, frères et sœurs, Dieu est le seul Dieu. Personne ne peut prendre sa place. Surtout pas Satan qui lui est soumis. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous ? Si vraiment Dieu il est avec nous, il est pour nous, qui va être contre nous ? Et pour vous en convaincre, eh ben moi j'ai demandé à Timothée ce matin de lire le très beau texte de Romains 8, versets 32 à 39, et puis il va nous expliquer aussi son témoignage de vie. Merci Timothée pour ce témoignage émouvant. Moi, je vous propose, avant de prendre la dernière promesse, de prendre le beau chant « Mon secours est en toi ». Sucre ? Ouais, je veux bien. Voilà. Donc, Dieu... La troisième promesse, c'est « Dieu est en nous ». Alors, nous avons vu que Dieu était chaque jour avec nous, que Dieu était en notre faveur, donc il est pour nous. Maintenant, nous allons voir que Dieu vit en nous, selon encore la promesse de Jésus. Jean 14, verset 16-17, « Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais vous, c'est-à-dire nous, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Eh bien, cette belle promesse de Jésus s'est aujourd'hui réalisée. Et l'apôtre Paul débute étonnamment sa phrase par une question. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le savez-vous ? Cette question de Paul est loin d'être anodine, car elle va déterminer notre véritable identité spirituelle, notre identité d'enfant de Dieu. C'est vrai qu'avant notre conversion, nous ne connaissions ni Dieu ni le Saint-Esprit. Nos vies étaient marquées par le péché, et nos corps étaient salis par des passions infâmes, car dit Paul, dans Romains 7, 5, lorsque nous étions encore dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais à présent, puisque nous avons répondu à l'appel de Dieu, puisque nous avons cru que le sang de Jésus-Christ avait coulé sur la croix pour nous purifier de nos iniquités, eh bien nous avons été lavés, nous avons été rendus purs, spirituellement propres, nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints. Nous avons été justifiés, graciés, rendus justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous le croyez, ça ? Dès lors, et dans ces conditions, rien ne s'oppose plus à ce que Dieu vienne habiter en nous, puisque nous sommes propres. puisque notre sainteté le permet. 1 Pierre 1,16, « Vous serez saints car je suis saint ». Frères, sœurs, à présent, notre corps est une terre sainte. Nous sommes vraiment une terre sainte. Nous sommes saints et Dieu a construit son temple en nous pour venir l'habiter par son Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu et sonde même les profondeurs du Père. Est-ce que nous avons pris conscience de la mesure de qui est venu habiter dans nos cœurs ? Est-ce que vraiment vous êtes rendu compte de qui était en nous ? Le Saint-Esprit se plaît dans la sainteté, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte à fuir comme la peste, la débauche et tout ce qui peut salir notre corps. 1 Corinthiens 6,18 est marqué « Fuyez la débauche ! Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Voilà, ça c'est un péché qu'il ne faut absolument pas pratiquer, ni les autres bien sûr. Mais le Saint-Esprit veut aussi nous perfectionner dans la sainteté. Voilà pourquoi il aspire à prendre les rênes de notre vie. Paul rajoute en 1 Corinthiens 6,19 « Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, frères et sœurs, sommes-nous remplis de l'assurance que le Saint-Esprit habite en nous pour nous faire du bien et pour nous bénir ? L'apôtre Paul conclut en disant, 1 Corinthiens 3,17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Ce qui rappelle le bon passage de Zacharie 2,8, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Celui qui s'attaque à un enfant de Dieu, eh bien, touche à ce que Dieu a de plus précieux. Et en cela, il se met en très grand danger. Moi, personnellement, j'ai pu observer tout le travail que le Saint-Esprit a pu accomplir en moi. On ne voit pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui l'a déjà vu, peut-être, le Saint-Esprit, ici ? Moi, je ne l'ai jamais vu. Et c'est bien souvent le témoignage des autres qui atteste de sa présence en nous, et en particulier celui des collègues de travail. Je suis parfois moi-même étonné de ce que me renvoient mes collègues. Franchement, des fois, je dis « c'est pas moi », ils ne parlent pas de moi, quoi. Ils me trouvent des qualités que donne l'Esprit de Dieu, à savoir, selon Galates 5, on me dit des fois « oui, bon, t'as de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi et la maîtrise de soi. Voilà. » Alors que naturellement, moi, personnellement, je ne possède pas ces qualités. Je ne les ai pas. Je le sais bien, parce que je me connais depuis que je suis tout petit. Mais vous savez, je prie chaque matin pendant 20 minutes dans ma voiture. J'ai pris l'habitude de fermer le poste. Et puis, il est tombé en panne pendant 3 ans, donc c'était encore mieux. Et je prie pendant 20 minutes et je demande au Seigneur qu'il me donne, pour sa gloire à lui, un témoignage puissant au travail, qu'il éclaire ma journée et qu'il me protège. Et je demande même plus, parce que des fois, j'ai même pas envie d'aller bosser. Non, mais des fois, je l'avoue, je suis fatigué, découragé, j'ai pas envie d'aller au travail. Ça m'arrive. Ah oui, Claude, ça m'arrive. Mais le miracle se passe, c'est que dès que je rentre dans l'établissement, alors, forcément, ça a une incidence avec ce que j'ai dit avant, c'est parce que j'ai prié. Quand je rentre dans l'établissement, eh bien, le Saint-Esprit qui habite en moi entre en action et il me bénit. Franchement, c'est hallucinant. Et là, je suis moi-même le spectateur privilégié, eh bien, de ce que l'Esprit fait en moi. Franchement, il me donne la force qui me manque, le courage que je n'ai pas. Parfois, je suis moi-même surpris par la patience dont je fais preuve avec des collègues difficiles ou des patients pénibles. Et il m'étonne aussi par la joie que je ressens à mon travail qui, à 66 ans, m'épuise souvent. Et surtout, l'amour que j'éprouve pour tous ceux qui m'entourent. Des fois, je suis étonné. Et je le dis toujours, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui agit en moi. Mais quand je dis ça, les collègues, ils ne le croient pas. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse agir que le Saint-Esprit agisse en soi. Là, j'ai une petite histoire aussi. Dernièrement, il y a un jeune qui est dans ma salle. Et ce jeune, il a fait un AVC. Et il fait de la... enfin, quand on lui donne à manger, eh ben, il fait des fausses routes. Et son papa m'avait dit, ne lui donnez pas de bonbons. La seule chose que vous pouvez lui donner, c'est une sucette. Je lui donne une sucette. Et quand je lui donne la sucette, il se met à rigoler et il fait une fausse route. Et il avale la sucette. Et il était en train d'étouffer. Et franchement, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Oui, j'ai fait Emlich, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai prié Dieu tout de suite. J'ai dit, Seigneur, sauve-le. Sauve-le, parce que je suis mal. Et bien, ce qui s'est passé, il a recraché la sucette. J'étais vraiment... j'étais soulagé, mais quelque chose de pas possible. Parce qu'il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. J'ai pu compter sur le Saint-Esprit qui est en moi, qui m'a entendu et qui a répondu. Et franchement, je me suis dit, mais j'aurais été mal, quoi. J'aurais été très mal. Voilà. Je voudrais qu'on prenne encore un chant, si vous voulez bien, le chant Ton nom, et ensuite je demanderai à Bernadette de conclure ce message par aussi un témoignage de vie sur les trois choses que nous avons vues, les trois promesses que nous avons vues.